السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، donc dans le cours précédent concernant nos assises du mois de Ramadan avec notre Ramadan avec notre Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, on avait vu dans le cours précédent les gens, les catégories de gens par rapport aux jeunes. Et on n'avait pas terminé, et d'ailleurs même quand on aura terminé cette sixième assise, on n'aura pas terminé. Car dans la septième assise, ça continue. Donc on reprend à partir de la troisième catégorie. On reprend à partir de la troisième catégorie de personnes par rapport au jeûne. Le jeûne n'est pas obligatoire pour le fou qui a perdu la raison. On avait expliqué que le fou, il y avait plusieurs catégories qui entraient dans ce statut. C'est-à-dire, c'est une catégorie en elle-même, c'est la troisième que nous cite Cheikh Al-Uthaymin. Mais à savoir que cette catégorie, elle a plusieurs genres en elle-même. Et on en avait cité dans le cours précédent quelques-unes. Et ça, c'est bien d'avoir des connaissances dessus pour ne pas croire que le Majnoun, c'est uniquement ou bien celui qui est fou, qui a perdu sa raison, ou bien celui qui est atteint de mal occulte. Il ne faut pas s'imaginer que ça s'arrête là. Mais c'est plus vaste. En vertu, puisqu'il y a plusieurs. En fait, la base, pour comprendre cette catégorie, la base, c'est quoi? C'est que le facteur déterminant dans cette catégorie, c'est le fait de que la raison soit non présente, qu'il y ait la raison qui ne soit pas là, la perte de raison. Alors la perte de raison, ça peut être permanent, et la perte de raison, ça peut être également temporaire. Donc la base, c'est que celui qui a une perte de raison permanente ne jeûnera pas. Tandis que celui qui a une perte de raison temporaire, lorsqu'il sera dans une situation où il perd sa raison, il ne jeûne pas. Et lorsqu'il sera dans un même temps, il reprend la raison, il y a des moments où il reprend la raison, là il jeûne. C'est ça que nous disent les savants. Ensuite, on avait dit qu'il y avait des divergences sur le fait de s'évanouir, etc. Non. Parce qu'il y a des savants, donc Cheikh Al-Othaymine, lui, il a une autre position ici, mais il y a des savants qui ont une position que celui qui s'évanouit, il perd donc sa conscience, sa raison, hein. Il perd donc sa raison pendant un long moment. Ça peut être comme celui qui est dans le coma, par exemple. Donc, en vertu du hadith précédent, la plume est levée pour toi, trois personnes. Son jeûne ne sera d'ailleurs pas valable car il est dénué de raison. Ça, c'est la raison principale. Donc, on voit qu'il n'y a pas que le fou qui perd la raison. Et donc, incapable de nouer l'intention d'adorer Allah. Et cette intention est une condition indispensable pour tout adorateur. Donc, attention. Attention, ici il y a une faïda immense. Immense. Retenez-la, hein. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Othaymine. Cette intention est une condition indispensable pour tout adorateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention, elle n'est pas uniquement pour le jeûne une condition. La salat, faut que tu aies une intention, sinon elle n'est pas valable. An-niyya min shurut as-salat. L'intention fait partie de. La prière, quand tu vas faire le Hajj, il faut que tu aies l'intention de faire le Hajj. Et quel Hajj? Il y a plusieurs formes de Hajj. Etc., etc. Même dans le Tawhid, la parole de Tawhid, la ilaha illallah, il faut avoir l'intention. Pour Allah, le culte exclusif. Les munafiqin, leur intention, elle est où? Les hypocrites qui disent la ilaha illallah pour faire plaisir au prophète, pour passer devant les compagnons, pour passer devant les gens. Wallahu alam. Donc, on comprend bien ici, une base fondamentale, c'est l'intention. Et ça, j'insiste, nous insistons dessus dans toutes les adorations, parce qu'on a déjà fait allusion à cette faïda qu'on va vous donner. C'est que l'intention, une œuvre dans la vie mondaine, une œuvre qui n'est pas forcément une adoration, elle peut le devenir selon l'intention. Si tu fais du sport et dans ton intention, c'est pour avoir une bonne santé, pour pouvoir bien adorer Allah, etc., tous ces genres d'intentions, eh ben, tu peux être en adoration. Donc attention, l'intention, c'est quelque chose, beaucoup de gens, hein, passent à côté. De toute façon, malheureusement, toutes les matières et tout ce qu'on enseigne et tout ce à quoi on exhorte, la majorité des gens passent à côté, comme vous avez pu le constater, hein. Malheureusement, ça c'est prouvé, hein, dans les nosos, les textes, que la majorité des gens ne savent pas ce qui est bon pour eux en réalité. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala nous fait signe à cela dans une sourate du Coran, sourate Al-Asr, où Allah Ta'ala nous dit « Wal-Asr, innal insana lafi khusr » En réalité, hein, par le temps, Allah Ta'ala jure, Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala, il jure par le temps que toutes les créatures, que tous les hommes courent à leur perte. Allahu Ta'ala, dans Sourate Al-Asr, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Comme vous le savez, Allah Ta'ala, dans cette sourate, il nous dit que, à la base, hein, ça c'est la base, c'est l'asl, les êtres humains, les hommes, tous y courent à leur perte. Et après, il donne les exceptions. Ça veut dire quoi? Wallahu a'lam. Ça veut dire que la plupart des gens, à la base, ils courent à leur perte. Donc c'est pour ça qu'on a fait le lien avec les cours de religion, qui ne sont pas forcément uniquement nos cours de religion, mais en général, concernant les cours de religion, les gens sont loin. Vous verrez que tout ce qu'on dit dans les cours, la plupart des choses qu'on dit lors des exhortations, lors des... Vous pourrez constater que... Bah, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Comment voulez-vous que des choses rudimentaires, hein, on se comprend, hein, on rabaisse pas l'islam, mais pour vous faire comprendre, des choses rudimentaires, la majorité des musulmans sont vraiment loin. Alors comment voulez-vous que les choses qui sont après intermédiaires ou qui sont... de haut niveau, confirmé, comment voulez-vous que les gens maîtrisent ces choses-là? Donc, s'il perd la raison de temps à autre, il devra jeûner lorsqu'il est lucide et ne sera pas tenu de le faire lorsqu'il sera inconscient. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est toujours dans la troisième catégorie de jeûneurs. On y était déjà hier à la troisième catégorie. S'il perd la raison au milieu de la journée, son jeûne ne sera pas annulé, au même titre que celui qui s'évanouit suite à une maladie ou autre, car il a noué l'intention de jeûner au début de la journée lorsqu'il était lucide. Rien n'indique que son jeûne est invalide, surtout si on sait que sa folie le saisit à des heures définies. Alors essayez de bien suivre après aujourd'hui ce cours, d'ailleurs tous les cours, parce que on va vous mentionner des fawaïd, des questions, des points ici qui résout beaucoup de questions que se posent les rawam, même les étudiants débutants, à chaque ramadan. Alors, il ne devra donc pas rattraper le jour durant lequel il a perdu la raison. Si le fou retrouve la raison au milieu de la journée, il devra s'interrompre de manger, boire et autres, car il sera concerné par l'obligation du jeûne. En revanche, il ne devra pas rattraper ce jour au même titre que l'enfant qui devient pubère ou le mécréant qui embrasse l'islam. Quatrième catégorie. Quatrième catégorie. Le vieillard sénile qui perd la raison ne devra pas jeûner et ne sera pas tenu de le compenser en nourrissant un pauvre, car il aura perdu le statut de personne responsable et sera au même niveau qu'un enfant qui n'est pas pubère. Si toutefois il retrouve la raison de temps en temps, il devra jeûner uniquement lorsqu'il aura toute sa tête. Donc vous voyez, hein, le fait d'avoir sa raison, c'est encore un facteur déterminant. Ainsi, il ne sera pas concerné par la prière et le jeûne pendant la sénilité, mais devra les observer lorsqu'il sera lucide. Donc avant de passer à la cinquième catégorie, par rapport à cela, ce qu'on vient de dire, il y avait donc une personne qui avait posé la question déjà par rapport à une personne qui est atteinte de mal occulte. De mal occulte. c'est-à-dire une catégorie spécifique de mal occulte. Est-ce que cette personne sera considérée comme la personne comme le fou, qui n'a pas toute sa raison? Donc, comme on l'a expliqué, la personne qui est atteinte de mal occulte, quel qu'il soit, hein, puisqu'il y a différents genres, catégories de mal occulte, une personne qui est atteinte de mal occulte, la base, c'est quoi? C'est la même base qu'on vous a mentionnée ici. C'est la raison. Les moments où cette personne a toute sa raison. Les moments où cette personne a toute sa raison, elle devra jeûner. Les moments où cette personne n'a pas toute sa raison, elle ne devra pas jeûner. Donc voilà, c'est entre les deux. La cinquième catégorie, celui qui est capable de jeûner en raison d'un empêchement permanent et dont la dissipation est improbable. Celui donc qui est incapable de jeûner en raison d'un empêchement permanent et dont la dissipation est improbable. Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas la capacité de jeûner. Il y a quelque chose qui vient empêcher, se mettre en travers. Et cela est permanent. Ça veut dire que il n'y a pas ce facteur où on se dit, on va le voir à la suite, hein, la différence entre la maladie, également la maladie qui est permanente et la maladie qui est temporaire. Là, pareil, c'est pas temporaire. C'est une personne qui est incapable de jeûner et il n'est pas dit, n'est pas sûr que d'ici peu, elle va redevenir capable. Alors, on nous donne l'exemple comme le vieillard. Quand on a vieilli, on a vieilli, hein. Ou quelqu'un atteint d'une maladie incurable, cancer ou autre. Ils ne devront pas jeûner car ils sont incapables, comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran. Fattakullaha mastata'tum. Et craignez donc Allah autant comme vous le pouvez, hein. Allah Ta'ala nous dit également dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mais écoutez bien, ils seront tenus, ceux qui n'ont pas la capacité de jeûner, et ça ne va pas changer, wallahu a'lam. Ils ne seront pas tenus de nourrir un pauvre pour chaque journée manquée, pardon, mais ils seront plutôt tenus de nourrir un pauvre pour chaque journée manquée. Donc eux, ils doivent remplacer le jeûne par ce qu'on appelle une fidya, c'est-à-dire nourrir un pauvre. Alors, on va expliquer, inshallah ta'ala, les différentes manières de nourrir les pauvres. Mais avant ça, il y a une faïda à mentionner très importante, et ce sont des questions que se posent les gens. Chaque ramadan, il y a des gens qui sont concernés par cela, donc ils posent les questions. Donc si vous, dans les cours, aujourd'hui, vous assimilez, vous l'écrivez, vous l'apprenez, tout ça, vous n'aurez plus besoin de poser la question aux savants. Bi'idhnillahu ta'ala. Donc, vous avez deux catégories de malades. Vous avez le malade. Celui qui a une maladie qu'on dit incurable, wallahu a'lam, hein, c'est la base. À la base, c'est incurable, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas guérir, mais à la base, il y a des miracles. Hein, il y a des miracles. Comme vous le savez. Donc, le malade incurable, on vient de le dire ici, lui, il ne va pas rattraper. Il n'a pas à rattraper ses jours de jeûne manqués parce qu'il est malade, incurable, etc., vieux. Mais alors, que doit-il faire? On a dit. Il doit donner une compensation, c'est-à-dire nourrir des pauvres. La deuxième catégorie, c'est celui qui est malade, mais c'est temporaire. Lui, c'est pas une maladie incurable. Lui, il n'entre pas, c'est pas la même chose. Lui, il devra Il devra refaire le jeûne. Alors après, moi je vous donne une base, mais on va pas entrer trop dans les détails. Il me semble qu'il y a 3 à 4 paroles, il y a divergence entre les savants. Il y a au moins 3 ou 4 paroles sur ça. Il y a également une troisième catégorie. Il y a une troisième catégorie, ça on étudie tout ça dans les détails du chapitre du jeûne, on le fera, Inch'Allah, en temps voulu, hein. Là, c'est des fawaïd en plus que je vous donne. Vous avez une troisième catégorie, c'est la femme qui est enceinte. La femme qui est enceinte, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a un bébé, elle ne peut pas jeûner, est-ce qu'elle rattrape? Est-ce que... Là, pareil, il y a divergence. Il y a des savants qui disent qu'elle est considérée comme le malade. Elle devra nourrir des pauvres. Si elle se sent vraiment faible, il y en a d'autres qui disent elle devra rattraper son jeûne. Donc il y a des divergences. Voilà. Dans ce cas, il a le choix, mais ils seront tenus de nourrir un pauvre, pour nourrir le pauvre de la personne malade incurable. Est-ce qu'il doit... Alors en principe, on va en parler là. Assalamu alaikum, pour nourrir le pauvre de la personne malade incurable, est-ce qu'elle doit lui donner en nourriture ou elle peut donner de l'argent à une association qui donne des repas aux pauvres? En principe, la base est le mieux, hein. Ce qui est la base et ce qui est le mieux, c'est de nourrir les pauvres. C'est de nourrir les pauvres. Alors il faut que je vérifie, j'ai complètement oublié. Il y a des fatwas des savants sur le fait de donner l'argent. Mais j'ai complètement, Wallah al-Musta'an, oublié ces fatwas. Je vais regarder, je vais essayer de regarder en... Donnez-moi 2 minutes là. Parce que j'ai complètement oublié. Hal-Yadjouz. Alors, 2 petites secondes, je vais vous donner la réponse, Inch'Allah ta'ala. Hukm dafa al-mal badal it'am fi kafara. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, que nous dit-il? Alors, kafarat al-yamin, qad nasa alayha. Donc, c'est pas ça, ça c'est kafarat al-yamin. Kafarat al-yamin, c'est pas ça. Ikhraj al-mal badal min it'am. Taïb. فإن إخراج غير طعام في هذه الكفرة غير مجزي عند جمهور الفقهاء وذهب الأحناف من الفقهاء الجواز قائلين بأن المقصود هو السد المسكين دونك فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاز إخراج القيمة لحاجة والمصلحة ومنعها في حال عدم وجود ذلك أما الإخراج القيمة في الزكاة كفرة طيب دونك vous avez comme on a dit hein, la base c'est que on doit nourrir des pauvres. Et ça, c'est la majorité des savants. La majorité des savants. Je viens de lire ici qu'il n'y a que Abu Hanifa, parmi les quatre imams, hein, que Abu Hanifa qui dit qu'on peut donner de l'argent. Nous, les étudiants en sciences, à notre niveau, on prend la majorité des savants. C'est ce qu'il y a de plus fort. Donc la réponse, c'est que la majorité des savants voient qu'on doit donner en nourriture. C'est pour ça que vous verrez dans les cours de fiqh ou dans les livres de fiqh, ça parle de nourriture, ça parle pas d'argent. C'est parce que la base, c'est que c'est en argent, en nourriture. Wafikum barakallah. Tayyib. Ici maintenant, on va vous éclairer on va vous éclairer parce que c'est quand même important. Comment on sait que maintenant on doit nourrir des pauvres dans tel ou tel cas? Maintenant, c'est bien de savoir comment on les nourrit, ces pauvres, de quelle manière? Comment on fait? C'est important quand même. Alors on nous dit, dans ce cas, il a le choix entre donner à manger à chaque pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 30 jours à peu près hein, dans le ramadan. Ça peut être 30 jours, ça peut être moins. Tu as 30 jours de jeûne. Tu es malade incurable ou autre. Ou autre. Tu as le choix entre nourrir un pauvre par jour pendant 30 jours. Tu as donc le choix de lui apporter à manger ou tu as le choix de faire à manger chez toi. Tu as un autre deuxième genre, comment nourrir les pauvres? Tu peux attendre la fin du mois et nourrir 30 ou moins, 30 pauvres, les jours que tu n'as pas jeûné. Voilà quelques différentes façons. Dans ce cas, il a le choix entre donner à manger à chaque pauvre un moût de froment qui correspond à un quart d'un sa prophétique, dont le poids est environ de 510 grammes, et entre préparer un repas et y convier des pauvres correspond au nombre de jours qu'il n'aura pas jeûné. Donc, tu peux préparer à manger et donner chez toi le nourrir, ou alors lui donner carrément la nourriture, ou alors le convier. Et leur préparer le repas, les convier et les nourrir. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit, le vieillard qui ne peut supporter le jeûne devra agir comme Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, après avoir atteint un âge avancé, il nourrissait un pauvre pour chacun de ses jours en lui donnant du pain et de la viande. Donc on a une faïda ici, c'est que regardez, c'est pas comme Zakat el-Fitr, où il y a quand même ces... limité à certaines denrées spécifiques. Zakat al-Fitr, c'est la zakat après le ramadan, hein, juste avant l'Aïd. Ici, on nous dit que nourrir les pauvres, tu peux donner de la viande, on a le dalil que tu peux donner de la viande et tu peux donner du pain. Hein. Ibn Abbas a dit au sujet du vieillard et de la femme âgée, donc ici on a parlé du vieillard, mais ça comprend la femme âgée également, qui ne peuvent pas jeûner, qu'il devait nourrir un pauvre pour chaque jour. Donc un pauvre pour chaque jour, ça signifie ou un pauvre par jour, ou cumuler tous les pauvres à nourrir à la fin du mois. Mes chers frères, la législation émane de la sagesse d'Allah et une clémence par laquelle il fit miséricorde à ses serviteurs. Car la législation est basée sur la facilité, la miséricorde, à perfection et la sagesse. Allah a imposé à chacun ce qu'il est en mesure d'accomplir, en étant épanoui et serein, et en agréant Allah Ta'ala comme Seigneur, l'Islam comme religion et Mohammed a.s. comme prophète. Proclamez donc les louanges d'Allah, ô vous les croyants, pour vous avoir accordé cette religion droite et pour vous y avoir guidé, alors que beaucoup de gens s'en détournent, vous voyez? Et demandez-lui qu'il vous raffermisse jusqu'à la mort. Donc on a ici également une grosse, grosse, grosse faïda. Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous augmente, qu'il nous en donne plus et qu'il nous raffermisse. Allah ta'ala nous dit dans le Coran, Ala in shakartum la zidannakum. Et si vous demandez à Allah qu'il vous donne plus, il vous augmentera, il vous en donnera plus. Et également, par rapport à cette parole de Cheikh Al-Uthaymeen, et demandez qu'il vous raffermisse jusqu'à la mort, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais cessé de demander d'être raffermi jusqu'à la mort. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui tiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc vous voyez, ce ne sont pas des paroles inutiles en l'air comme ça, mais ce sont des paroles très, très, très extrêmement importantes. Importantes. Pourquoi? Également la faïda, hein? Également dans la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, c'est que.
Cela n'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir que cela n'est pas donné à tout le monde. Donc il faut remercier Allah Ta'ala pour l'islam, pour les bienfaits, pour être capable de jeûner, pour... on écoutait tout à l'heure un cours de Cheikh Abdelrazak Al-Badr qui disait, subhanallah, c'est adib, il disait, tu dois remercier Allah ne serait-ce que le fait que tu aies un toit, que tu aies une famille, que tu aies femme ou mari, que tu aies des enfants, que tu aies à manger au moment de rompre le jeûne. Rien que ça, ce sont des grâces pour lesquelles on doit remercier Allah Ta'ala. Mais malheureusement, comme le dit Allah Ta'ala fi kitabihil karim, l'homme est ingrat. L'homme est ingrat, comme vous le savez, Wallahu al-musta'an. Donc, voilà, ça c'est pour le 4, le 5. Maintenant, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, passer à la... Voilà. Nous allons, Inch'Allah, maintenant, commencer la 7e assise avec Cheikh Al-Uthaymeen. Nous allons commencer la 7e assise. Bismillahirrahmanirrahim. Les différentes catégories de personnes par rapport pendant le jeûne. Donc on est toujours, hein, c'est comme si c'était une suite, c'est comme si c'était la suite. Donc on voit bien que l'introduction de notre cheikh Al-Uthaymeen est assez longue, donc ça prendra du temps pour la traduire. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit: Ikhwani, ô mes frères, on vous a déjà expliqué que cela comprenait également ô mes sœurs, ô musulmans, ô musulmanes. Qaddamna al-kalama an khamsati aqsami. Nous avons, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit donc, nous avons abordé dans le cours, dans l'assise précédente, la parole sur les différentes catégories de jeûneurs concernant les jugements du jeûne. Nous avons parlé, nous sommes arrivés à cinq catégories. Nous avons atteint cinq catégories, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. ونتكلم في هذه المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام. Nous allons parler d'autres catégories dans cette assise, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. D'autres catégories, et il nous dit فالقسم السادس. فالقسم السادس. Alors, je n'ai pas compris pourquoi dans la précédente on était au 7. سابع. Je vais regarder vite fait. Alors, قسم خامس, قسم الخامس, ensuite القسم السابع. سابع, d'accord, خامس سابع. Eh bien, tout simplement, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit la sixième catégorie, parce que dans le cours précédent, dans l'assise numéro 6, on n'a pas vu de sixième catégorie. On a vu la 5 et on est passé directement à la 7. Donc voilà pourquoi je pense, hein. Je regarde encore. Septième. Je ne vois pas de sixième. Quatre, cinquième et quatrième et troisième. Donc oui, c'est pour ça. Hein. Wallahu alam, c'est pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas de sixième. Donc le cheikh, il nous mentionne ici une sixième catégorie. D'accord. Alors, après avoir loué Allah et lui avoir fait les éloges, puis prié sur lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, nous avons évoqué précédemment cinq catégories de personnes concernés par le jeûne. Et nous allons parler dans ce cours de deux autres catégories. Alors, on va pas regarder. Oui, la sixième, le voyageur, à condition qu'il n'en fasse pas un moyen pour se débarrasser du jeûne. Donc, attention. Regardez. Le voyageur entre également dans les catégories de jeûneurs. Il y a un statut pour le jeûneur qui est en voyage. Alors, le premier point très important ici qu'on nous mentionne dès le début, attention, lorsque tu pars en voyage, Allah Ta'ala a fait ce qu'on appelle rukhsa. Rukhsa, c'est-à-dire il a donné une permission, le choix de ne jeûner ou de ne pas jeûner. Mais attention, il y a une condition pour que tu entres dans ce statut. Tu sois considéré ce statut de jeûneur voyageur. La condition, c'est que tu ne fasses pas mine de voyager pour éviter de jeûner. Alors, si le cheikh en parle, c'est que ça existe, hein, vous inquiétez pas. C'est qu'il y a des cas comme ça. Celui qui a pour intention de voyager pour pas jeûner, il n'entre pas dans cette catégorie. Donc le voyageur, à condition qu'il n'en fasse pas un moyen pour se débarrasser du jeûne. S'il voyage dans ce but, il lui sera alors interdit de manger et il devra jeûner. La permission, c'est pour celui qui est vraiment en voyage. S'il ne voyage pas avec cette intention, il a alors le choix, c'est-à-dire l'intention de tricher, il a alors le choix entre jeûner et manger, quelle que soit la durée de son voyage. Qu'il soit inhabituel ou régulier, comme les pilotes d'avion ou les chauffeurs, par exemple, en vertu de la parole d'Allah Ta'ala qui dit: Waman kana maridan aw ala safarin safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre de jours équivalent. Allah Ta'ala veut pour lui la facilité, il ne veut pas pour lui la difficulté. Anas ibn Malik rapporte, radiallahu anhu, nous étions en voyage en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui jeûnait ne faisait pas de reproche à celui qui mangeait en voyage. Et celui qui mangeait ne blâmait pas celui qui jeûnait. Donc ici, on a déjà un dalil, une preuve, hein, qu'en voyage, tu as le choix, selon le verset et selon le hadith. Mais regardez, il y a une faïda et également ici, qui est en relation avec nos cours de comportement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein. Bon, c'est pas ancien quand même. Regardez les compagnons. Ça aussi, on peut prendre comme dalil. On peut le prendre comme preuve concernant le khilaf, la divergence. Anas ibn Malik rapporte, nous étions en voyage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui jeûnait ne faisait pas de reproche à celui qui mangeait. Et celui qui mangeait ne blâmait pas celui qui jeûnait. Donc là, ce n'est pas une question de divergence, mais c'est quand même similaire dans le comportement. C'est-à-dire qu'ils ont adopté une position différente chacun et l'autre, parce que tu as le choix. Tu as le choix. Et chacun n'a pas jugé l'autre. Excusez-moi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez me dire, mais même pendant le siyam, il n'y a personne qui va juger l'autre, celui qui est en voyage et en voyage. Ben, sachez que ça, c'est pas dans l'absolu. Parce que nous-mêmes, donc, c'est-à-dire moi, hein. Un jour j'ai pris l'avion, et moi qui suis une personne qui n'aime pas l'avion, et pourtant j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier, hein. Mais maintenant je n'aime plus l'avion. Je n'aime plus l'avion. Donc quand je monte dans un avion, j'ai la gorge un peu sec, sèche, c'est dur. C'est dur. Et donc je prends cette rukhsa, cette permission que Allah Ta'ala m'a donnée. Et comme un jour je me suis retrouvé dans un avion où la plupart des gens jeûnaient, etc., pour dissiper l'ambiguïté, il y avait une personne qui était à côté de moi, je lui ai dit, Allah Ta'ala, il a donné une permission, on a le choix, c'est vrai que c'est mieux de jeûner, mais tu as le droit, c'est un droit que tu as de ne pas jeûner en voyage. Et il y a un monsieur qui, le monsieur à qui j'ai dit ça, qui était à côté de moi, il m'a répondu une ambiguïté. Hein. C'est une shubha de shubha, une ambiguïté. Il m'a dit oui, mais ça, c'est une permission que quand à l'époque du prophète, il traversait le désert, il y avait des chameaux, etc. Donc ça, c'est une ambiguïté parce que la permission, elle n'est pas restreinte à ça. Pas du tout. Elle n'est pas restreinte à ça. Wallahu a'lam. Donc Anas ibn Malik rapporte, nous étions en voyage, donc ça c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui vont vous juger. Vous voyez que les compagnons, ils ne se sont pas jugés les uns les autres, mais nous à notre époque, il y a des gens qui vont vous voir manger. Ça peut même aller loin. Ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. J'ai un exemple en tête, mais on n'aura pas le temps de le mentionner. Je connais une personne qui s'est fait frapper par un frère. Et qui a fini à l'hôpital, c'est une dame qui m'a dit ça. Une dame qui jeûnait pas. Et c'est une dame pourtant qu'on respecte beaucoup. C'est une Amiya, mais de notre quartier, et qui a du khair. Et elle ne jeûnait pas. Et un frère, bon, je pense qu'il était atteint hein, psychologiquement, le frère, nous a raconté qu'elle a fini à l'hôpital. Elle a terminé à l'hôpital. Donc pour vous dire, hein, il y a des gens qui portent des jugements, alors que tu ne sais pas. Surtout que la femme, elle a plus d'excuses que l'homme, la femme. On ne va pas rentrer dans les détails, comme vous savez, j'aime pas m'attarder sur ce genre de détails, mais la femme, elle a des menstrues, la femme, elle est enceinte, elle a un bébé, la femme ceci, la femme cela. Qu'est-ce que tu sais, toi? Pourquoi tu juges que ce jour-là... Il voit une femme, elle ne jeûne pas, elle est en train de faire certaines choses, de manger. Ou... C'est ton siyam, ton ramadan, il est pour toi, il n'est pas pour les autres. Faites un festin devant moi. En quoi ça va me gêner? C'est un choix, c'est mon choix. Donc comment voulez-vous que ça me gêne? Un frère, il a envoyé une dame à l'hôpital. Wallah, je me suis demandé comment cette dame, elle peut continuer à me dire salam. Là où beaucoup de gens auraient dit, ah, c'est comme ça les frères, elles continuaient à nous dire salam alaikum, comment allez-vous, etc. Une dame qui nous a connus tout jeunes. Hein. Wallahu musta'an. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre de jours équivalent, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Anas ibn Malik rapporte, nous étions en voyage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui jeûnait ne faisait pas reproche à celui qui mangeait, et celui qui mangeait ne blâmait pas celui qui jeûnait. Vous voyez? Ça, c'est le comportement des sahabas, des compagnons. Abu Saïd al-Khoudri a dit, les compagnons estimaient qu'il était bon de jeûner si on en avait la force, et de manger si on se sentait faible. Vous voyez? Ils n'ont pas dit, il n'a pas dit, il faut que ça soit un voyage de 40 jours. Sur un chameau et que t'as pas d'eau, et ils n'ont pas dit ça ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit si tu as la force de jeûner, jeûne. Si t'as pas la force, et eh ben tu jeûnes pas. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Il lui fait comprendre la religion. Vous constaterez que. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Hein. Ils n'ont pas de fiqh. Ils n'ont pas de fiqh, ils ne comprennent pas. Alors même lorsqu'ils entendent un hadith, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris le vrai sens, le sens de la religion. La religion, c'est l'amour. La religion, c'est la facilité. La religion, ce n'est pas la dureté et de faire fuir les autres et d'être hautain ou d'être méprisant envers les autres. Il y a beaucoup de gens, même parmi les gens de la sunna, ils ont compris à l'envers. Donc faut qu'ils se soignent. Hein. Faut se soigner, faut qu'ils se soignent en espérant que ne pas mourir sur ces égarements de juger les autres et de Wallah Musta'an, tout ce que vous savez, et on en a parlé ce matin dans le cours, le fait de juger autrui. Alors, Hamza ibn Amr ibn al-Aslami rapporta qu'il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je possède une monture sur laquelle je voyage et que je loue. Il m'arrive d'arriver au mois de Ramadan en ayant l'intention de jeûner car suis jeune et j'ai la force de le faire. Je préfère donc jeûner plutôt que de le retarder et d'en être ensuite redevable. Ça, c'est un choix. Ô messager d'Allah, est-ce mieux pour moi de jeûner ou de manger? Il répondit, tu peux agir comme bon te semble. Vous voyez? C'est un choix en fait. Allah Ta'ala, il a donné une permission, c'est un choix. Ô Hamza, le chauffeur de taxi ou autre qui éprouve de la difficulté à jeûner pendant le Ramadan en raison de la chaleur, par exemple, peut le retarder jusqu'à des jours qui seront plus froids et durant lesquels il pourra jeûner. Le mieux pour le voyageur est de choisir entre le jeûne ou la rupture, ce qui est le plus facile. Donc vous voyez, c'est pas une question de, c'est juste une question de comment toi tu ressens les choses, ta capacité à jeûner ou pas. Si les deux sont identiques, il est alors préférable de jeûner afin de ne pas en être redevable. Et car c'est plus encourageant de jeûner avec les autres musulmans. Tu vas faire l'Aïd avec eux, tu vas, etc. Pendant le Ramadan, nous partîmes en voyage. Donc, de plus, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait, comme le rapporte Abu Darda, radiallahu anhu. Pendant le Ramadan, nous partîmes en voyage en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wasallam, sous une chaleur caniculaire. Si bien que l'un d'entre nous posait sa main sur sa tête en raison de la chaleur. Parmi nous, seul le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et Abdullah ibn Rawaha jeûnait. Non. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rompit son jeûne lorsqu'il constata que celui-ci était pénible pour ses compagnons. Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se dirigea vers la Mecque. Il jeûna jusqu'à Qura. Et les gens en firent autant. On lui dit, les gens ont du mal à jeûner et attendent ta décision. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda après l'asr qu'on lui apporte un verre d'eau, qu'il leva afin que les gens le voient et le bu. Abu Saïd al-Khoudri, radiallahu anhu, rapporte alors qu'il était en voyage sur sa mule et que les gens étaient à pied. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arriva auprès d'un ruisseau pendant une journée estivale. Il dit, oh, les gens buvaient, ils refusèrent. Il dit, je ne suis pas comme vous, ma situation est plus facile que la vôtre car je voyage sur une monture. Mais ils refusèrent à nouveau. Il descendit alors de sa monture et se mit à boire alors qu'il ne voulait pas. Hein? Qu'il ne le voulait pas. Alors les gens l'imitèrent. Mashallah. Si le voyageur a du mal à jeûner alors qu'il rompt le jeûne, en vertu du hadith précédent, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompit le jeûne lorsqu'il devint pénible pour ses compagnons. Certaines personnes commuèrent malgré tout, continuèrent, pardon, continuèrent malgré tout à jeûner, et il dit alors, les voilà les désobéissants, les voilà les désobéissants, subhanallah. Jabir rapporte alors qu'il était en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aperçut un attroupement autour d'un homme auquel on s'efforçait de faire de l'ombre. Il demanda qui est-ce, on lui répondit, c'est quelqu'un qui jeûne. Et il dit, ce n'est pas agir en bien que de jeûner en voyage. Ainsi, celui qui part en voyage en journée et a du mal à jeûner peut rompre son jeûne une fois qu'il a quitté sa ville. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna jusqu'à Qura el-Ramin, et lorsqu'il fut informé que cela causait du tort à ses compagnons, il décida donc de rompre le jeûne et les gens en firent de même. Qura el-Ramim est une montagne de couleur noire du côté d'Al-Hara qui s'étend jusqu'à la vallée qu'on appelle El-Ramim entre El-Usfan et Mar el-Daran. Lorsque le voyageur rentre de voyage et arrive dans la journée, alors qu'il ne jeûnait pas, il ne lui sert à rien de se mettre à jeûner, car il ne l'a pas commencé au début de la journée. Et le jeûne obligatoire et n'est valable que lorsqu'il est fait à partir du lever de l'aube. Donc il y a un fondement très important ici, c'est que on termine de jeûner si on a commencé à jeûner le matin. Taïb, doit-il néanmoins arrêter de manger? Les savants ont des avis différents sur la question. Certains ont dit qu'il ne doit plus manger par respect pour le mois de Ramadan et il doit rattraper ce jour. Donc ça, c'est celui qui rentre de voyage. C'est l'avis qui est le plus répandu dans le rite de l'imam Ahmed. Qu'Allah lui fasse miséricorde. D'autres savants ont dit qu'il n'est pas obligé de jeûner car cette abstinence ne lui servira à rien puisqu'il devra rattraper ce jour. Et il n'avait pas à respecter la sacralité de ce mois car celle-ci a été suspendue suite à sa rupture du jeûne permise par Allah Ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud anhu a dit que celui qui a mangé au début de la journée mange également à la fin. C'est-à-dire que celui qui a le droit de manger au début de la journée, pour une raison valable, a aussi le droit de manger en fin de journée. Ceci est l'avis de l'imam Malik al-Shafiri dans une version également de l'imam Ahmed. Donc vous voyez, ça c'est des petits fondements, des choses que c'est bien de connaître. Parce que ça répond à des questions de tous les jours dans le, concernant le jeûne que les gens se posent tous les jours. Voilà, je rentre de voyage. Qu'est-ce que je fais? Et ici, Cheikh Al-Othaymine nous a donné des réponses. Malgré tout, il ne doit pas manger ni boire en public car les gens ignorent la raison de sa rupture. Il pourrait avoir une mauvaise pensée de lui et certains pourraient même avoir l'envie de l'imiter. Donc, c'est vrai que le meilleur concernant le comportement par rapport à l'exemple qu'on a vu précédemment, c'est pas de manger devant, surtout dans un pays musulman. Oh là là! C'est pas de manger devant les autres, tout ça et tout ça, c'est une sagesse. Mais on va pas aller envoyer les gens à l'hôpital parce qu'on les a vus manger. Le malade, septième catégorie. Le malade qui a bon espoir de guérir. Donc vous voyez, ça, c'est un autre cas. Celui qui a espoir de guérir, il n'est pas pareil, il n'a pas le même statut que celui que il est malade d'une maladie incurable. Celui qui a du diabète et qui ne peut pas jeûner. Il n'est pas comme celui, par exemple, qui a une grippe saisonnière et ça l'empêche de jeûner, il est KO au lit, etc. Lui, normalement, la grippe, à un moment, elle va partir, Inch'Allah Ta'ala. C'est un exemple que je vous donne, hein. Le malade qui a bon espoir de guérir, il peut se retrouver dans trois cas de figure. Tiens, ben justement, on va voir si vous avez suivi le cours. Quelle est la différence entre le malade incurable et le malade qui n'est pas d'une maladie incurable? Comment il devra procéder, celui qui a une maladie incurable et celui qui a une maladie curable? Comment il devra rattraper son jeûne, l'un et l'autre? Mashallah, on n'a qu'un frère aujourd'hui. Je crois, hein, je crois que c'est un frère, hein, Baladji. Peut-être c'est une soeur. Je pense que c'est un frère. On n'a qu'un frère aujourd'hui. Le malade incurable. Alors, je vais taper sur le. Voilà. Attendez, je vais essayer de mettre le chat en grand. Bon, je n'ai pas réussi, mais. Le malade incurable doit donner à manger et l'autre doit rattraper. Très bien, très bonne réponse. Allah ibarak, mashallah. Incurable. Wa alaykoum salam. Le premier en nourrissant un pauvre tous les jours. Le deuxième de rattraper ses jours manqués. Très bien, vous avez bien compris, c'est bien. Ça fait plaisir. Mashallah. Barakallahu fikoum. Doit rattraper ses jours manqués. Oui, c'est bien ça. Le malade qui a une maladie incurable doit nourrir un pauvre orphelin. Et lui qui a une maladie curable devra rattraper, Inch'Allah. Alaykoum salam, très bonne réponse, c'est très bien.
Bah, ça fait plaisir, tout le monde a compris. Alors, ah, je ne savais pas que tu étais là. Ziad, mashallah, je ne savais pas que tu étais là. Papa, non, il n'est pas là, papa, c'était ce matin. Le curable rattraper ses jours, tout à fait, et l'incurable nourrir un pauvre. Le voyageur a libre choix. Mashallah, barakallah fikoum. Excuse, hein, Ziad, je ne savais pas que tu étais là. Mashallah, barakallahu fikoum. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, c'est une Hayakallah, Khiziad. Écoutez, c'est une bonne chose. Vous avez bien compris, c'est une bonne chose. Donc, on a pu à se poser des questions. Ça, c'est des questions, les Awam. Chaque Ramadan, ils reviennent avec la même question. Voilà, je suis malade. Voilà, je suis enceinte. Voilà, je suis. On m'a posé beaucoup l'année dernière. On m'a beaucoup posé ces questions. Et comme j'avais affaire à des gens, on aurait dit qu'ils cherchaient ce qui les arrange. À chaque fois, ils me reposaient. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Écoutez, en tant qu'étudiant, moi, je vous dis qu'il y a une divergence. Et moi, je vous dis qu'il y a ça. Que moi, c'est cette position-là. Mais il y a des gens, ils veulent que tu leur dises, c'est bon. T'as pas à rattraper. Va nourrir des pauvres, c'est bon. Mais moi, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu, comme vous le savez. Alors, la septième catégorie, le malade qui a bon espoir de guérir. Il peut se retrouver dans trois cas de figure, ce malade. Le premier cas, le jeûne ne le gêne pas, il n'est pas dangereux. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous, mes chers professeurs, mes professeurs, pardon, la personne qui doit rattraper son ramadan doit le faire avant le ramadan suivant. Je vais vous répondre après. Après, Inch'Allah, je vais répondre à cette question, Inch'Allah, ta'ala. Il n'y a pas de souci. Wa alaykoum as-salam. Et alors, le premier cas, le jeûne ne le gêne pas, il n'est pas dangereux pour sa santé. Celui qui se trouve dans cette situation devra jeûner car il n'aura aucune excuse lui permettant de rompre le jeûne. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple qui me vient tout de suite hein, parce que c'est notre cas. L'allergie. L'allergie au pollen, malgré qu'on est vraiment, c'est une allergie aiguë. Hein. Il y a des fois, on ne peut plus bouger. C'est une allergie, on est KO, KO. Mais par la grâce d'Allah, ça ne nous empêche pas quand même de jeûner. Pour pas jeûner, vraiment, il faut vraiment qu'on ait des grosses migraines, envie de vomir, etc. Là, ouais. Oui, mais sinon, par exemple, voilà, quelqu'un qui fait de l'allergie, qui est allergique au pollen ou quoi. En ce moment, ça tombe toujours au moment du ramadan. Hein. Ça fait quelques années, là. Parce que le ramadan se trouve l'été et le pollen, ça commence un tout petit peu avant l'été et ça continue l'été. Donc voilà, c'est un exemple. Donc lui, il devra jeûner. Le deuxième cas, le jeûne lui est pénible mais n'est pas dangereux pour sa santé. Celui-là devra rompre son jeûne en vertu de la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc vous voyez, même si le jeûne, par exemple, il est pénible pour une personne qui est malade, mais il peut, c'est pas incurable, hein. Mais c'est pénible, il peut rompre son jeûne. Il peut rompre son jeûne et il devra rattraper ce jeûne. Il est détestable de jeûner en cas de difficulté, car cela revient à se torturer. En délaissant la dérogation. Vous voyez? Retenez bien hein, la facilité qu'Allah Ta'ala nous a donnée. Et des fois, c'est exactement le terme adéquat ici. Des fois, on va se torturer. Franchement, des fois, on va se torturer pour rien du tout. On va continuer à jeûner alors qu'on est en train de vomir, on est en train de mal de tête. C'est un exemple que je vous donne, hein. On n'arrive plus à respirer, par exemple, asthmatique, allergie, ça dépasse la limite. Non, je lâche pas l'affaire, je jeûne, mais c'est de la torture gratuite. C'est gratuit. C'est toi, tu te tortures tout seul. C'est pas on est venu, on t'a kidnappé et on te torture. Là, c'est toi, tu te kidnappes. Pardon, astaghfirullah. Tu te tortures tout seul, gratuitement. C'est pour ça que c'est détestable. Allah Ta'ala, il t'a donné une permission. Pourquoi tu vas. Subhanallah. Donc, Inch'Allah Ta'ala. On va se contenter de ça aujourd'hui, c'est pas grave, hein, il n'y a pas le feu. On va faire la suite dans les prochains cours, mais on va répondre. Il y a une sœur qui a posé, une étudiante qui a posé une question. Donc nous, on est dans le prisme Sabir. Je vais le noter ici pour pas oublier. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si on aura fini l'ouvrage entièrement, parce que déjà en 2 semaines, là, on n'est même pas à la moitié. Donc ça, pour avancer, il faudrait vraiment. C'est dommage. Alors, la question en question. La question en question. Alors, d'abord, je crois qu'il y a des frères qui ont parlé. Le curable rattraper ses jours et un curable, le voyageur libre choix, patron. On a combien de temps pour rattraper ses jours? Ah, d'accord, c'est la même question. Alors, à peu près la même question. Attendez, je reviens. Oui, il y a la même question. Bon, elle est partie. Mais professeur, la personne qui doit rattraper son ramadan, doit-elle le faire avant le ramadan suivant? Alors, je crois que Ziad, c'est la même question qu'il a posée. On a combien de temps pour rattraper les jours? Alors, la base, en principe, écoutez bien, la réponse à cette question, c'est qu'à la base, en principe, tu as jusqu'au ramadan prochain. Avant le prochain ramadan, tu dois avoir rattrapé tes jours. Et si jamais tu n'as pas rattrapé tes jours, il te faut une excuse valable comment dire, sauter le ramadan prochain. C'est-à-dire que tu vas faire rattraper des jours dans le ramadan prochain. Et il faut vraiment une excuse valable. Mais sinon, si tu n'as pas d'excuse valable, tu dois donc réponse à la question, quelle est la limite pour rattraper les jours qui manquent? C'est le ramadan d'après. En gros, Allahu alem, si je ne me trompe pas, hein, reprenez-moi si je me trompe, c'est à peu près un an, quoi. Tu as une année à peu près pour rattraper les jours manqués. Donc ça laisse du temps quand même. Moi, ce que je conseille, franchement, moi, c'est ce que je conseille, je recommande, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est quand tu as un jour, bon voilà, tu as été malade ou autre, tu as un jour à rattraper, juste après l'Aïd, tu as un jour, deux jours, fais-les tout de suite. Après, tu vas, avant les Shawwal, les 6 jours de Shawwal, parce qu'après, tu vas rentrer dans le laxisme, le shaitan, il va te dire après, après, après. Et un jour, tu vas te retrouver une semaine avant le ramadan. Oh là 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 là, le ramadan prochain. Oh, j'ai pas fait mes jours. Paye ta dette tout de suite. Vous comprenez? Parce que vous le savez, hein, c'est une dette. Hein. C'est une dette. Le siyam, c'est pour Allah ou Ta'ala, ça plaisante pas. Donc voilà, vous savez, j'avais même un projet, subhanallah, mais concernant le ramadan. Voilà, le livre, il était ouvert jusqu'à ce matin, il était posé sur le canapé, les fatawas de Cheikh Al-Uthaymeen sur le jeûne. Je me suis dit, je vais leur faire quelques audios. Wafikum barakallah, wafikum barakallah. Je me suis dit, je vais leur faire quelques audios, lecture de fatawa de Cheikh Al-Uthaymeen, et j'ai pas eu le temps. Mais sûrement que je vais vous faire là l'audio parce que maintenant j'ai du temps. J'ai terminé certains examens que j'étais en train de faire. J'étais en période d'examen, hein, les 2 semaines là. C'est pour ça que j'étais un peu KO le matin. Je ne pouvais pas aller dormir après le Fajr, j'avais des révisions, j'étais en période d'examen, là ça s'est terminé par la grâce d'Allah. Donc je vais avoir plus de temps. Je vais quand même vous faire un audio où il y a des fatawas de Cheikh Al-Uthaymeen. Je vais les choisir, ces fatawas. Question-réponse. Question-réponse. Voilà. Ça sera un petit cadeau comme ça. J'espère que ça sera utile pour les. Même s'il reste 2 semaines, hein, on a 2 semaines. Au moins un audio comme ça, fisabilillah pour vous. Donc voilà. Wafikum barakallah. J'espère que tout le monde se porte bien. Accrochez-vous, hein. Accrochons-nous. Parce que, comme on l'a dit, hein, le début, il y a tout le monde. Tout le monde est là. C'est comme dans les cours de Cheikh Al-Fawzan. Et puis petit à petit, on s'affaiblit. Hein. On s'affaiblit, il y a de moins en moins de monde et il ne donc c'est attention, c'est pas un jugement et c'est pas péjoratif et c'est pas du dénigrement parce que vous savez bien que ici à l'Institut, on a le choix hein, de suivre en direct ou de suivre pas en direct, on a le choix. Mais ceux qui veulent sortir avec un bagage, donc pas un bagage scientifique, normalement tout le monde peut sortir avec un bagage scientifique, mais un bagage Ijaza, diplôme, recommandation, oui, on le connaît, oui, on la connaît. Et il y avait aussi une personne de l'Institut qui avait dit pour les 2 premiers élèves, frères et sœurs, les 2 premiers, j'offrirai 16 ouvrages en français. 16 ouvrages en français. Donc, vous voyez, le fait d'être présent à tous les cours, il y a de l'avantage.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on blâme ceux qui ne sont pas là. Mais l'endurance, l'endurance, l'endurance. Wallahu a'lam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka. Wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.